travaux pour ce second panel qui est consacré à, je dirais, à l'avenir et à la question de la réforme possible de ces institutions. J'ai le souvenir que dans le livre qu'il avait consacré à l'histoire de Sciences Po, l'historien Gérard Vincent avait trouvé dans les archives les notes prises par le jury du grand oral de Laurent Fabius, et il y avait marqué « excellent candidat, un peu faible sur les propositions ». Je pense que les constitutionnalistes, parfois, ont un peu ce travers-là. C'est-à-dire que pour le diagnostic, c'est assez bien. Sur la question des propositions, ça l'est parfois un peu moins, parce que c'est une question difficile. Mais on en est un peu là de notre discussion après l'excellent premier panel, dont je ne veux pas dire qu'il avait la tâche facile, parce que c'était déjà la première, mais le diagnostic immédiat, si on le résume, il est tout de même assez frappant, assez marquant et assez sombre. Sans vouloir verser dans le spectaculaire, on est quand même probablement à un tournant. On a beaucoup parlé de crise de réforme. S'il y a un moment où il y en a une, on est probablement là. On en est maintenant à un moment du régime qui n'est pas totalement inédit, mais qui est très marqué dans le sens de la crise. Peut-être une chose méritant d'être dite liminairement, c'est que tout le monde, du moins beaucoup de gens, insistent sur la nécessité de réformer le régime. Ça a été le cas dans un passé relativement récent. Je pense aux travaux de Bastien François et d'Arnaud Montebourg sur la Sixième République. Ça n'avait pas donné, ça n'avait pas eu d'issue assez, si je veux dire. Mais il n'est pas si facile que ça de modifier l'équation de la Sixième République. En ce sens qu'elle repose quand même sur des éléments de stabilité, sur des sortes de contraintes structurelles dont fait partie le président de la République. Il y avait eu un sondage assez élaboré, une étude du CEVIPOF qui était appuyée sur un sondage il y a 3-4 ans, où en réalité on se rendait compte que près de 7 Français sur 10 étaient favorables à un exécutif fort, et donc, puisque c'était ça que nous avions à l'époque, un président fort d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'on appelait tout à l'heure la vision présidentialiste, elle est aussi dans les esprits, je pense, des électeurs. Si nous perdions la Ve République actuelle, on en appellerait certainement au retour de quelque chose de comparable. Donc tel me semble un petit peu le paysage. Néanmoins, je ne veux pas redire en même temps parce que c'est plus à la mode, mais néanmoins, on voit bien, et c'est aussi une des conclusions du premier panel, que la Ve n'apporte plus guère ses atouts traditionnels qu'on trouvait dans les manuels. C'est-à-dire l'unification que je qualifierais d'opérationnelle du pouvoir entre les mains d'un président qui, par ailleurs, est légitime. Aujourd'hui, les deux facettes sont en crise. La légitimité du président ne va nullement de soi. Et l'efficacité du gouvernement d'un seul, quel qu'il soit, est quand même assez largement remise en cause. On a totalement oublié dans nos régimes l'idée qu'un exécutif dans un régime parlementaire est un exécutif collectif. Effacement, cette idée-là, elle n'est même plus dans les esprits. Plus personne n'associe le régime parlementaire à cabinet collectivement responsable, mais aussi collectivement puissant, avec des ministres qui ont des choses à dire et qui pèsent d'un certain poids dans la formation de la décision. Puis deuxièmement, et je dis quelque chose qui est important, la stabilité institutionnelle. Ça, elle a été passée par pertes et profits. La Ve, moi, quand on l'a apprise, on me disait c'est le premier régime stable, peut-être le premier de notre histoire politique moderne. Désormais, nous sommes dans cette situation de brouillard et de vague qui nous montre bien que ni la Ve dans son ensemble, ni certaines de ses composantes, par exemple une nominale à deux tours ou l'élection du président, ne nous apportent la stabilité. En résumé, on a un petit peu perdu, je dirais, la martingale. On a perdu la solution miracle que censait apporter la Ve République. Néanmoins, c'est bon, en même temps, c'est assez notoirement difficile à faire évoluer. Alors on a de ce point de vue-là une proposition fort intéressante dont nous souhaitions, enfin dont les organisateurs, je me suis rallié respectueusement à eux, souhaitaient qu'on parle. C'est la proposition de nos collègues Pierre Brunet, qui est absent, mais Arnaud Lepilouer et Michel Tropper qui sont présents, qui dans un article d'un journal du soir, qui s'appelait dans Le Monde, qui s'appelait Le parlementarisme authentique. Suppose, et authentique chez Michel Tropper, on sait que c'est un mot qui a un sens fort. Le parlementarisme authentique suppose de rompre avec la confusion des rôles, et je vais le résumer un peu simplement en disant que vous en appeliez à la fin de cet article un élément diagnostic sur lequel vous pourrez revenir. Vous en appeliez à, je cite, mettre fin à l'élection du président au suffrage universel, dont vous disiez que c'était la meilleure solution. Et puis il y a un second débat fort intéressant qui a pris jour, si je puis dire, ces dernières semaines, c'est la question de la destitution du président de la République. Dans la rue, une rue de Paris que j'ai traversée pour venir ici ce matin, il y avait une affiche du LFI avec marqué « pour le SMIC,
à 1600 euros, Macron destitution. Ok, mais ce que je dis, je ne voyais pas le lien entre les deux choses, mais c'était, bon, c'était de la rhétorique politique intéressante, significative. Bien, alors, je pense qu'on peut travailler de la façon suivante, si vous le voulez bien. Ce que je propose, c'est de donner la parole d'abord à Michel Tropper, un de nos viewers, pour qu'ils nous présentent leurs idées. Elles ont pu évoluer depuis l'article, et peut-être qu'un état ou instantané de leur position, mais pourquoi, comment. Et puis n'hésitez pas à parler aussi du bilan, parce que ce qui a été un petit peu oublié, enfin, je lis le titre, mais l'accent sur la question de l'élection présidentielle, mais ce n'était pas la totalité de votre proposition et de votre article. Et puis ensuite, toujours dans le respect de cette idée des 5 minutes par intervenant, je propose de donner la parole à Cécile Barre, qui nous parlera de la question de l'article 68. Et après cela, nous pourrons ouvrir la discussion comme tout à l'heure. La parole aux deux premiers intervenants.
5 minutes, et Jean-Marie.
Oui, mais alors, ah oui, Jean-Marie, donc. Qui nous parlera du sujet de son choix.
Il y a Bruno
aussi qui est très sympa.
C'est la fois que je ne suis pas organisateur de ça. Donc tous nos intervenants ont chacun ses minutes de parole.
Merci beaucoup, M. Denis. J'aurais commencé par préciser que le titre de l'article n'est pas de nous. C'est le Monde qui a choisi le titre. En tout cas, ce que nous voulions, c'était réagir à des propos qu'on entendait beaucoup sur des plateaux et dans certaines tribunes publiées, notamment par Le Monde, mais ailleurs, qu'il fallait revenir au régime parlementaire et que, malheureusement, la culture juridique ou la culture politique française n'était pas proche du parlementarisme, parce qu'on était sorti depuis là. Cette culture parlementariste depuis la fin de la 4e République, et que ce n'était pas conforme à l'esprit de la 5e de Romain. Et alors on a beau rappeler que le régime parlementaire, c'est la responsabilité politique du gouvernement, et donc de ce point de vue, personne ne peut nier que la 5e République, la constitution de la 5e, crée un régime parlementaire, mais si on voulait s'écarter, et la plupart des gens s'écartaient de ça, pour dire il y a bien la responsabilité politique, mais nous n'avons pas cette culture politique et constitutionnelle du régime parlementaire. Donc il faut redonner, et on se plaçait beaucoup sur un terrain un peu psychologique, il faut redonner cette culture politique, il faut notamment donner le sens des compromis, et ce que nous avons voulu faire, c'est de montrer que le système, en tout cas je parle sous le contrôle de Arnaud, ce que nous avons voulu montrer, c'est que la 5e République n'était pas parlementaire ou présidentielle, que la 5e République a fonctionné toujours et depuis le début comme fonctionne un régime parlementaire, c'est-à-dire un régime dans lequel le pouvoir est soutenu par une majorité, et ne serait-ce qu'une majorité docile qui laisse faire, et depuis le début, depuis de Gaulle. Il faut rappeler quand même les premières élections, enfin moi je suis assez vieux pour m'en rappeler, j'étais pas encore électeur en 58, mais pas loin, et en tout cas je voyais les affiches électorales, et sur les affiches électorales, les candidats écrivaient pour De Gaulle. De Gaulle était en gros et le nom du candidat était en petit, et puis personne ne le connaissait. D'ailleurs, on s'en fichait complètement et on disait que si on avait voulu faire élire un cheval, eh bien, il aurait suffi de mettre le nom de De Gaulle et le cheval aurait été élu. Et donc, depuis le début, ça a fonctionné comme ça. Et en réalité, l'affaiblissement, ce qu'on appelait l'affaiblissement du Parlement, est dû en grande partie à l'élection du président au suffrage universel. Mais pourquoi l'élection du président? On connaît bien les systèmes dans lesquels le président est élu au suffrage universel et n'exerce pas un pouvoir réel. Mais chez nous, ce qui s'est produit, c'est que
d'abord la personnalité de De Gaulle, mais ensuite l'élection au suffrage universel qui était un peu un substitut à cette popularité de Gaulle. L'élection au suffrage universel a fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde vise la présidence de la République, et que les élections législatives, surtout si elles suivent immédiatement l'élection du président, les élections législatives ne servent qu'à donner une majorité au président. Ce que je disais de Gaulle s'est répété ensuite pour Macron, en tout cas en 2017. Cette focalisation de toutes les élections législatives sur la personnalité, sur le programme du président, a donné le système qu'on connaissait. Le président a un programme, et bien il faut lui donner une majorité sans laquelle il ne peut pas réaliser ce programme. Donc tout repose là-dessus. À la fois la stabilité. Et même la période de cohabitation n'est pas un démenti à ça, puisque la concentration du pouvoir se retrouve entre les mains du Premier ministre en période de cohabitation, pas celle qu'on connaît maintenant, mais celle qu'on a connue dans le passé. Tandis que le président continue donc de gouverner grâce à cette majorité qui est docile. Et pourquoi est-elle docile? Parce que les députés ne tiennent leur siège que de la grâce présidentielle qui les a investis. Donc il me semble que le système ne peut changer qu'à la condition de mettre fin à ce système. Alors, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, tout le monde va dire c'est impossible, le peuple pensera qu'on veut lui retirer le pouvoir, et c'est en effet très très difficile. Et je crois qu'on va pouvoir peut-être tout à l'heure essayer de rechercher des moyens de pallier à ces difficultés.
Merci Michel. Arnaud.
Oui, je souscris évidemment à tout ce que Michel vient d'expliquer. Moi, je me donne l'impression d'être une sorte de constitutionnaliste obsessionnel, puisque quand le système fonctionnait très bien, qu'il était stable, que le quinquennat, ça roulait, je n'arrêtais pas de dire non, le problème, c'est l'élection directe du président, et maintenant que ça dysfonctionne, si on me demande quel est le problème, je dis c'est l'élection du président. Je crois que j'ai une universelle directe, mais à vrai dire, je pense que dans les deux cas, il y a effectivement un problème. Dans le premier, je l'ai beaucoup écrit, et ça fait longtemps que j'ai essayé d'écrire sur cette question. Il me semble que effectivement, enfin, tout ce que a rappelé Michel est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'on est face à un système qui finalement focalise sur une élection et donne une sorte de d'application de la théorie démocratique qui est quand même très fruste, hein. C'est l'élection d'un chef et puis après voilà, on est content parce qu'on a élu ce chef. Ça provoque une certaine concentration des pouvoirs. C'est un peu mensonger aussi, parce que en réalité, l'élection qui détermine qui va gouverner, c'est l'élection législative. Ce sont les élections législatives, puisque sans majorité, on ne peut pas faire de loi, on ne peut pas mener de politique publique. Et pourtant, tout le monde est concentré sur cette élection personnelle. Enfin, il y a des tas de défauts. Je ne reviens pas sur chacun d'entre eux, mais moi ce qui m'a frappé dans la séquence que l'on vient de vivre, c'est que ça avait aussi beaucoup altéré les capacités de résilience, comme on dit aujourd'hui, du système, parce que il me semble que dès 2022 on a vu qu'il y a quelque chose qui dysfonctionnait un petit peu, parce qu'en réalité dans la situation politique dans laquelle on se trouve en 2022 suite à l'élection présidentielle, avec cette fameuse majorité relative qui était en fait une minorité, dans n'importe quel système parlementaire, on aurait dû avoir une plateforme de gouvernement avec des partis proches, le gouvernement aurait dû être fondé sur ça. Mais en fait, l'élection présidentielle, la victoire de Macron a conduit les acteurs à considérer qu'il était normal que ce soit lui qui forme un gouvernement de macroniste uniquement. Ce qui était déjà quelque chose d'un peu étrange, à vrai dire. Et puis alors là, c'est le pompon, si j'ose dire, puisque, en fait, il me semble que ce qu'il y a de vraiment frappant dans cette séquence, c'est que, effectivement, le président de la République est chargé de nommer le Premier ministre. Soit, on a attendu qu'il nomme le Premier ministre. Mais enfin, il a fait un peu comme ferait un chef d'État parlementaire. Il a consulté pour savoir quelle serait la meilleure coalition possible, etc. Mais enfin, il n'est pas bien placé pour faire ça. Il vient de gouverner pendant 2 ans au moins, et il prétend être celui qui va objectivement déterminer quelle est la meilleure coalition possible pour gouverner le pays. Il est le moins bien placé pour faire ça. Et moi, c'est la raison pour laquelle, si je suis d'accord avec vous, il n'y avait pas de droit du NFP à prétendre avoir une situation d'être nommé, je pense néanmoins que la seule manière pour lui de s'en sortir, étant donné que c'était lui celui qui était l'autorité amené à désigner le Premier ministre, c'est de se réfugier derrière une règle un peu objective qui était l'arithmétique. C'est-à-dire, on commence par une, ça ne va pas marcher, parce que ça n'aurait pas marché longtemps. Puis, on passe à une deuxième, éventuellement le RN, si c'était le deuxième groupe. Et puis après, un troisième. Les gens auraient compris qu'en réalité, ce n'était pas lui qui faisait le choix, et qu'il, simplement, il était bien obligé de tâtonner eu égard à la configuration de l'Assemblée. Or, s'il n'a pas fait ça, je pense que seul, en plus, ça l'aurait servi du point de vue de son image, disons. S'il ne l'a pas fait, je crois, c'est parce que, contrairement à ce qu'il a dit, c'est pas parce qu'il avait peur que Lucie Castet soit immédiatement destituée, c'est parce qu'il avait peur qu'elle accomplisse quelques actes qui l'auraient bien embêté avant d'être destituée. Et ça me paraît un vrai problème, parce qu'il avait perdu les élections, précisément. Et donc, il n'était pas, comme tu le disais, Denis, tout à l'heure, il n'était pas celui qui pouvait déterminer quelles seraient les politiques publiques à mener. Il fallait qu'il se réfugie derrière le Parlement. C'est au Parlement de décider, l'Assemblée nationale, de décider qui pouvait gouverner ou non. Et il me semble que ce n'est pas ce qu'il a fait. Et tout ça est en fait déterminé, surdéterminé par l'élection présidentielle. Alors, je ne crois pas que ce soit l'élection présidentielle qui crée le pouvoir du président, ni d'ailleurs le texte constitutionnel. C'est plutôt tout un ensemble de représentations qui sont forgées depuis les débuts de la Ve République et l'organisation de la vie politique autour de cette élection. Mais néanmoins, il me semble que ça reste une des seules manières de revenir en arrière que de la supprimer. C'est-à-dire, je ne vois pas tellement d'autres solutions que de supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel direct pour mettre fin à ces dysfonctionnements. Alors, il y a évidemment d'autres hypothèses. On a beaucoup parlé de la proportionnelle récemment, pour instaurer une proportionnelle qui permettrait effectivement d'empêcher le président de disposer d'une majorité toujours très, très stable, très obéissante, et aussi une proportionnelle qui conduirait les partis à finalement enclencher une sorte de culture du compromis, parce que en fait c'est aussi ce mode de scrutin dont tu parlais, Bruno, tout à l'heure, qui aussi conduit à ne pas former des compromis avec les autres. C'est l'association entre l'élection présidentielle et ce mode de scrutin de tout, donc on peut espérer que la proportionnelle le passe, mais ça dépend beaucoup de la proportionnelle, et ce sera mon mot de la fin.
Merci beaucoup, Arnaud. Je vais tout de suite donner la parole à Cécile pour qu'elle nous parle de l'article 68, si elle le veut bien.
Très bien, merci Monsieur le Président, merci à tous. Je vais effectivement alors parler d'une question un peu annexe par rapport au grand débat de l'élection présidentielle, mais qui a évidemment un lien puisqu'il s'agit du statut du président de la République. Et je voudrais revenir donc pour ma part sur cette proposition de résolution qui a été rejetée par 81, qui a été, proposée par 81 députés à l'initiative de la LFI, et puis qui a été rejetée par la conférence des présidents le 8 octobre dernier. Alors, il s'agit évidemment de la procédure de destitution prévue à l'article 68 de la Constitution, qui permet la destitution du président de la République pour manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Alors, ce que je voudrais ici, c'est en fait essayer de déterminer ce que cette résolution, cet épisode nous enseigne, en fait, nous a montré, et puis ce que cet épisode pourrait éventuellement nous laisser espérer dans le but d'améliorer un peu la Ve République. Et je voudrais aussi préciser que je parle sous le contrôle à double titre vigilant de Denis Barranger, d'une part parce qu'il est président de séance, mais aussi parce qu'il a été auditionné par la Commission des lois au moment de cette résolution. Alors, sur cette résolution, je vais vous en épargner l'exégèse, parce qu'elle s'illustre, il faut bien l'avouer, surtout par l'indigence de ses formulations. Juste un exemple, on y apprend ainsi que, je cite, l'article 8 de la Constitution ne dispose pas que le président choisit un premier ministre qui... Voilà, bien avancé. Elle se singularise également par l'inexactitude de ses références comparatives ou historiques. Bref, elle fait davantage penser à une copie de première année qu'à une catilinaire de Cicéron, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je crois que là encore, c'est assez significatif de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire quand même un manque de, une perte de culture politique et juridique de nos élus. Et donc, pour il suffit en ce qui concerne la résolution de vous en rappeler la teneur, il s'agissait pour l'essentiel de griefs qui se concentraient sur le refus du président de la République de nommer à Matignon Lucie Castex, et ce qui aurait constitué une violation manifeste de l'article 3 de la Constitution, selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple, etc., etc. Et il était également reproché au président de la République de n'avoir toujours pas nommé de Premier ministre au bout de 46 jours, étant évidemment au moment du dépôt de la résolution. Ce faisant, il aurait contrevenu tant à l'article 8 qu'à l'article 5 de la Constitution, mais je précise tout de suite que je rationalise ici fortement la résolution, qui part en réalité dans tous les sens, qui articule des griefs nombreux, divers, et qui sont rarement mis en lien avec une disposition précise. Et ça, déjà, je trouve ça intéressant parce que c'est significatif de ces résolutions qui illustrent parfaitement la dimension éminemment politique, plus que juridique, évidemment, de ce type de procédure. Et c'est manifestement un comportement général du chef de l'État que l'on essaye de saisir par l'intermédiaire de ce mécanisme probablement pas tout à fait adapté. Alors, il est certain que, et vous le savez comme moi, tant le constituant que le législateur organique se sont bien abstenus d'essayer de définir précisément ce qu'est le manquement manifestement incompatible avec l'exercice du mandat, et il en résulte que, en réalité, ce qui relève d'un tel manquement, ce que deux tiers des membres de chacune des assemblées, puis de la haute cour, caractérisent comme tel. Toujours est-il que ce projet de taxi de si manifeste que cela, puisque elle a fait l'objet, la résolution a fait l'objet d'un rejet massif de la proposition par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui l'a rejetée à 54 voix contre 15. Voilà pour la résolution et les épisodes précédents. Cela étant, évidemment, le rappel du passé ne saurait suffire et cela nous conduirait à rater l'objectif de cette table ronde qui essayait de tenter d'imaginer quels moyens institutionnels pourraient être mobilisés pour sortir de la situation actuelle qui est quand même assez anxiogène et en tout cas inédite. Or, ce qu'il y a d'intéressant, il me semble, dans la procédure d'octobre, c'est précisément ce qu'elle nous dit des insuffisances de la Ve République. Le rapporteur de la commission des lois souligne d'ailleurs dans son rapport combien au cours des débats l'attitude du chef de l'État depuis la dissolution a été unanimement critiquée, quel que soit le parti auquel se rattachait tel ou tel député. Et il précise que ce vice-débat renvoie à une polémique sur le bien fondé des décisions du président de la République qui résonne très fortement avec la société française, écrit-il. Or, comme l'a rappelé tout à l'heure Elina, ce qui fait la spécificité de la Ve République, c'est bien l'irresponsabilité du président de la République, qui n'est plus contrebalancée par une responsabilité devant le peuple, comme le montrent d'ailleurs nos débats et, une fois de plus, la dernière dissolution. Or, certaines des interventions en commission, lorsqu'on lit le compte-rendu, témoignent de la nécessité de faire évoluer la Constitution, ce qu'a d'ailleurs souligné tout à l'heure Patrick Bell. Et on peut se demander s'il ne serait pas grand temps de mettre fin au dogme anachronique de l'irresponsabilité présidentielle. Et je précise tout de suite que par cette belle formule, le dogme anachronique de l'irresponsabilité présidentielle, cette belle formule n'est pas de moi, mais d'Olivier Beau, ici présent, qui plaidait en ce sens dans un article publié dans l'Express, tenez-vous bien, le 1er mai 1997. C'est vous dire s'il est écouté par le pouvoir constituant dérivé. Alors, depuis 1997, évidemment, les articles 67 et 68 ont été largement révisés, mais on peut se demander s'il ne conviendrait pas d'aller plus loin, en fait, sinon en facilitant la mise en cause du chef de l'État devant les chambres, ce qui aurait évidemment pour conséquence de mettre fin au régime parlementaire, ou du moins en infléchissant au moins la pratique de la procédure de destitution de l'article 68, voir les textes qui l'encadrent. La question est donc la suivante, et elle a été posée dans le rapport, est-ce qu'une procédure mieux pensée ne pourrait pas offrir au Parlement la possibilité inexistante par ailleurs de débattre démocratiquement du fonctionnement des institutions, y compris en ce qui concerne le président de la République ? Alors là encore, je rends à César ce qui lui appartient. Il s'agit d'une proposition qui a été faite par Denis Barranger, qui l'a suggéré manifestement lors de son audition, et ses propos ont été repris à son compte par le rapporteur en conclusion du rapport. Le problème, c'est que la route à parcourir pour ce faire est encore longue. Elle est longue parce que les textes en matière de destitution sont d'une très grande ambiguïté, d'une très grande confusion, et ouvrent en réalité la voie à toutes les stratégies de blocage. Et on voit bien là encore cette volonté de protéger la figure présidentielle. Les textes, c'est principalement la loi organique du 24 novembre 2014, qui porte application donc, de l'article 68 de la Constitution, qui est extrêmement brève, très étonnant pour une loi organique, et parfaitement mal écrite. On a quand même mis 7 ans à la pondre. Il y a quand même quelques évolutions intéressantes, et notamment, je crois qu'on peut se réjouir de voir que le bureau de l'Assemblée nationale est revenu sur son précédent de 2016, en se contentant, en 2024, d'exercer un simple contrôle de la recevabilité de la proposition de résolution, c'est-à-dire que le bureau n'a pas dérivé vers un contrôle d'opportunité de la résolution, alors même que la présidente de l'Assemblée nationale, qui pouvait précisément s'appuyer sur les ambiguïtés de la loi organique pour ce faire, appelait de ses voeux un tel contrôle d'opportunité pour précisément bloquer la résolution en question. Et plus encore, autre difficulté, alors même que celle-ci semble être un peu réglée par la nouvelle jurisprudence du bureau, cette procédure a de particulier que rien ne garantit qu'une proposition, même déclarée recevable par le bureau, soit examinée en séance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la décision du Conseil constitutionnel portant sur la loi organique qui a été rendue en novembre 2014 et qui a procédé à une interprétation très constructive de la loi organique, je passe sur les détails, mais pour résumer, cette interprétation a eu pour conséquence d'offrir devant la première assemblée saisie, tant au président de la commission des lois qu'à la conférence de présidents, la possibilité de bloquer la procédure en faisant simplement preuve d'attente, en étant simplement attentiste. Bref, il me semble que la conclusion s'impose d'elle-même. Sans une révision au moins de la loi organique qui mettrait au bas mot en place une inscription de droit de la proposition de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée, il me semble que ce n'est malheureusement pas sur la haute cour qu'il faut compter pour remédier à la responsabilité.
Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à nos deux grands témoins. Formule de l'ORTM du passé. En commençant par Jean-Marie Doncan. Jean-Marie, je vous la parole.
Merci, Denis. Bon, alors, je vais pas commenter directement ce qui a été dit jusqu'ici, mais je voudrais prendre la chose sous un angle un petit peu différent. Dans un texte qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, qui est paru sur le blog de JusPoliticum, Pierre Avril conclut, on l'a déjà dit, en disant que pour la première fois sous la Ve République, le peuple, entendez les électeurs, n'avait pas eu le dernier mot dans la désignation des gouvernements. Et c'est évidemment tout à fait vrai. Mais ça m'a incité à me poser une question qui est en somme la question inverse, à savoir comment le suffrage universel peut-il avoir le dernier mot dans la désignation des gouvernements. Alors, on pourrait me répondre qu'un système d'un régime démocratique avec multipartisme et élections libres, le peuple désigne toujours les gouvernants puisqu'il est nécessaire qu'ils aient un vote favorable sous une forme ou sous une autre pour exercer le pouvoir. Et je me semble que malheureusement cette affirmation est fausse. Cette affirmation est fausse et je crois qu'en témoigne l'histoire constitutionnelle de la France à partir du moment où on ne la fait pas commencer en l'an 2000 avec le quinquennat et l'inversion des membres. Il me semble au contraire que sous la Troisième et la Quatrième République, il n'est pas vrai que les gouvernants aient toujours été déterminés par un vote des Français au suffrage universel. C'est même, me semble-t-il, la minorité des cas. Et le seul cas vraiment net qui me semble exister sous les deux républiques précédentes, c'est les élections qui mettent un terme à la crise du 16 mai 1877. Parce que là, effectivement, les électeurs, c'est-à-dire la majorité des électeurs, puisque le peuple, c'est toujours la majorité des gens qui votent, ça n'est pas une entité abstraite, c'est concrètement ça, c'est la majorité des gens qui se déplacent pour voter, C'est dans ce cas-là, il est clair que le peuple, entre guillemets, a tranché. Mais pourquoi a-t-il tranché? Il a tranché parce qu'il avait un choix binaire. Il avait à choisir entre deux blocs, qui étaient deux conceptions de la France, de l'histoire, de la Constitution, de la République. Et en faisant perdre un, il en faisait gagner l'autre, et réciproquement. Et là, effectivement, il y a une situation où les électeurs choisissent les gouvernants, ils choisissent ce qui va être Grévy un peu plus tard, et ne va plus être Macron, et tout ce qui s'ensuit. Bon. Ça, c'est clair. Mais si vous regardez la suite, vous voyez qu'effectivement, il y a toujours des élections. Sur la 3e et sur la 4e République, je ne vous l'apprendrai pas, il y a toujours eu des élections. Et au bout d'un processus plus ou moins long, il y a toujours eu des gouvernants. Mais est-ce que c'était les gouvernants qui étaient choisis de façon directe par les citoyens? Eh bien non, parce que si vous regardez les choses d'un peu près, au-delà des généralités d'usage, des idées toutes faites qui satisfont certains esprits, vous constatez qu'en réalité, si les électeurs choisissent les gouvernants, ils ne les choisissent que de façon temporaire et indirecte. Bon, en 1924, la gauche gagne. En 1926, la droite reprend le pouvoir. En 1932, la gauche gagne. En 1934, la droite reprend le pouvoir. La droite ou le centre, en tout cas, autre chose que les coalitions qui avaient été en principe choisies par les électeurs. Et en 1936, c'est pareil. En 1936, le Front populaire l'emporte. Et deux ans après, c'est la droite ou le centre droit qui revient au pouvoir. Je laisse de côté le fait que cette assemblée dite de Front populaire terminera sa course en donnant les pleins pouvoirs à Pétain. Pour ça, évidemment, il y avait d'autres motifs. Mais ceci me paraît tout à fait frappant. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dans un système comme celui-ci, qui est un système parlementaire au sens classique, traditionnel, pur, dans un système comme celui-ci, dans la majorité des cas, et en tout cas dans le long terme, les citoyens ne choisissent pas les gouvernants. Ils n'ont pas un pouvoir de dernier mot, ils ont un pouvoir d'avant-dernier mot. C'est-à-dire qu'ils distribuent des cartes, et c'est au niveau du Parlement que des coalitions changeantes, variables, parfois contre nature, parfois complexes, il y avait toute une typologie de cela sous la Troisième République, expose par exemple Joseph Barthélemy dans son traité de droit constitutionnel de 1938, donc tout à fait à la fin du régime, faisait que, en réalité, il y avait de nombreuses combinaisons possibles et que c'était les parlementaires et les parlementaires seuls qui choisissaient les gouvernants en dernière instance. C'était encore vrai sur la 4e République. Les gens votaient pour Madès France et ils avaient Edgar Faure. Bon, c'était les deux grands hommes de la 4e République. Alors, en instance, il aurait pu y avoir pire, on en a vu pire. Mais il était de fait que quand il y avait un mouvement d'opinion en faveur d'un homme, eh bien, les parlementaires, lui, cassaient les pattes, comme ils l'ont fait à Gambetta, comme ils l'ont fait à Madès France. Parce que la logique de la Troisième République était qu'il ne fallait pas, c'était la logique de l'égalité, et si quelqu'un semblait avoir un appui dans l'opinion, il fallait s'arranger pour qu'il ne revienne pas au pouvoir. Et Madès France en particulier avait fait une initiative extraordinaire et qui lui a coûté dans de larges mesures la suite de sa carrière, il s'était adressé aux Français. Or, il était mauvais, il était mal vu sous le système de la Troisième République qu'un chef de gouvernement s'adresse aux Français, il devait s'adresser aux parlementaires qui ensuite répercuteraient ou ne répercuteraient pas dans les circonscriptions l'opinion défendue par le chef du gouvernement. Alors, ça, c'est un système dont on a complètement perdu l'idée. Personne aujourd'hui ne peut imaginer une telle chose, tellement les choses se sont changées, mais qui était le système de la 3e et de la 4e République. Dans ce système-là, il est faux de dire que le gouvernement est déterminé par l'élection. Il est conditionné dans une certaine mesure par l'élection, par le verdict des urnes, il n'est pas déterminé de façon directe. Alors pourquoi, question inverse, pourquoi en a-t-il été autrement sous la Ve République ? Là, je vais dire des choses que tout le monde sait, mais qu'il faut rappeler néanmoins. Il y a plusieurs raisons. Alors, l'élection du président de la République au suffrage universel a eu un rôle, mais un rôle qui est parfois mésestimé ou mal compris. On a dit à partir d'un certain moment que parce qu'il était élu au suffrage universel, il avait l'onction populaire. Quand on recourt à des termes religieux, c'est toujours très significatif, c'est parce qu'on n'a rien à dire. Donc, il avait l'onction populaire. Mais il y a des parlements, et tout le monde le sait, enfin tous les gens qui connaissent un peu ces questions, il y a des pays où des présidents de la République sont élus au suffrage universel et exercent des fonctions limitées par le droit, et où la politique du pays, ce n'est pas eux qui la décident, même s'ils interviennent dans certaines circonstances. Donc il n'y a pas de rapport mécanique entre l'élection du président de la République au suffrage universel et le pouvoir qu'il a acquis sous la Ve République. Ce qui s'est passé, c'est autre chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'abord eu un mécanisme de bipolarisation, c'est-à-dire une influence, c'est ce que disait Pierre Avril, je l'évoquais tout à l'heure déjà, sur du système institutionnel, sur le système politique. Et ça s'est manifesté d'abord, bon, ça n'était pas du tout vrai en 1958. Il faut rappeler, une fois de plus, je le dis toujours, mais bon, il faut relire le discours que tient Michel Debré devant le Conseil d'État le 27 août 1958. Bon, que dit-il ? Il dit tout ce que nous avons mis dans la Constitution, qu'on appellera plus tard et à tort, c'est l'armée médiévale, ne me mentira pas, parlementarisme rationalisé, eh bien, on a appelé parlementarisme rationalisé des mécanismes qui avaient justement pour but de pallier l'absence de majorité. Et puis, en 1962, coup de tonnerre, coup de théâtre que personne ne pouvait imaginer, il y a une majorité. Il y a une majorité parce qu'elle est issue d'un autre scrutin, binaire par définition, qui est le référendum, et que les partis, dans leur majorité, avaient appelé à voter non, c'est le oui qui l'a emporté. Et dans l'élan de cette victoire du général de Gaulle, le parti qui s'était créé, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, contre son gré, va emporter, à la surprise générale, une majorité absolue à l'Assemblée. Donc, dans cette situation-là, on a créé une bipolarisation. Ceci a été, à ceci s'est ajouté le fait que qu'il est écrit dans la Constitution qu'à l'élection présidentielle, il y a deux tours. Et il y a deux candidats. Au deuxième tour, il n'y a que deux candidats. Donc, autre scrutin binaire. Et ainsi, ça a créé une bipolarisation. Alors, le résultat a été qu'on a eu un système où, effectivement, les électeurs avaient le dernier mot. Parce que soit, après, ils l'avaient au présidentiel, mais ils l'avaient aussi aux législatives. Parce qu'aux législatives, ils allaient voter soit pour, soit contre le président de la République. Si c'était pour, c'était du présidentialisme. Si c'était contre, c'était de la cohabitation. Mais dans les deux cas, ils choisissaient. Ils avaient, effectivement. Ceci a été, je ne le rappelle pas parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, ceci a été mis à mal par l'initiative malencontreuse prise en l'an 2000 du quinquennat associé à un renversement des élections présidentielles. Et à partir du moment, il n'y a plus de barrage, puisque en principe, il était admis que les électeurs élisaient dans la foulée, une majorité favorable au président. Et ceci a raté en 2024 pour la première fois, si bien que cet équilibre qui donnait effectivement le dernier mot aux électeurs a été mis à mal. Alors, ce que je voudrais dire, surtout, c'est à ça que je voulais arriver, c'est qu'il faut être conscient, n'est-ce pas, qu'il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on privilégie ? Si on privilégie le fait que les électeurs, en dernier ressort, choisissent les gouvernants, eh bien, il faut effectivement briser ce système et supprimer l'élection présidentielle. À ceci près que, comme d'ailleurs Michel l'a dit tout à l'heure, l'opinion n'en est manifestement pas prête. Et dans le cas contraire, si on ne fait pas ça, Et si le système ne se rétablit pas tout seul, ce qui après tout est possible, hein, je crois qu'on parle d'agonie, mais le diagnostic est prématuré. Si ça se trouve, les choses vont durer jusqu'aux prochaines présidentielles, il y aura un président de la République qui sera élu, j'espère que ça ne sera pas deux personnes dont je ne mentionnerai pas le nom, et ça c'est mon opinion personnelle, on pourrait être d'une autre opinion. Bon, il y aura, et peut-être que dans la foulée, justement parce que les gens veulent que ça marche, ils donneront à l'un ou à l'autre une majorité. Mais ça n'est pas sûr. Mais si ça n'est pas le cas, il faut être conscient du fait qu'on aura un système parlementaire pur, où, comme je disais tout à l'heure, sous la 3e et la 4e République, les électeurs ne décideront pas en dernier ressort, ils n'auront que l'avant-dernier mot, ils donneront les cartes, et ensuite les partis, entre eux, feront leur petite cuisine. Leur petite cuisine sur leur petit feu, ça c'est un mot du général de Gaulle, et les électeurs et les citoyens auront le droit de regarder.
Merci beaucoup.
Je ne vais pas trop dépasser.
Merci beaucoup. Je vous donne la parole à Bruno de Gaulle.
Merci, cher Denis. Alors, comme Jean-Marc a dit beaucoup de choses auxquelles je souscris, je ne vais pas être très long, je vais simplement revenir sur quelques points un petit peu dans l'esprit de ce qu'il a dit. D'abord revenir d'ailleurs au titre de cette table ronde, quelle solution trouver finalement à la crise. Et j'ai envie, quand on pose cette question, de dire mais finalement, quelle crise, quel est le problème? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait qu'un. En fait, il y en a plusieurs. Est-ce que le problème est que nous aurions deux pôles, deux partis dits non modérés qui prennent les deux morceaux de l'omelette, ou qui rient, comme on le disait autrefois? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est au contraire, et si c'est ça, il n'y a pas de réponse, ça relève du jugement de valeur, et puis effectivement, c'est la conséquence politique qui ont été menées. Je ne pense pas qu'on puisse revenir totalement en arrière. Est-ce que le problème, c'est l'absence de majorité, comme on l'entend beaucoup dans les médias? Là, ça nous pose la question de savoir ce qu'est la majorité, comme l'a très bien dit Jean-Marie, et je m'attendais et j'espérais qu'il prononce sa formule géniale, qu'on a trop tendance à oublier. Les électeurs distribuent les cartes, mais ça a toujours été les gouvernants qui jouent. Voilà. Il n'y a rien de choquant à cela dès lors qu'on se situe dans une perspective représentative et qu'on est dans le cadre d'institutions. Parce que la démocratie directe n'a aucun sens du mot, ça n'existe. C'est toujours médiatisé par des institutions, par définition. Donc si vous voulez, l'idée que le peuple, on ne sait pas exactement qui c'est, pourrait imposer comme ça, c'est déjà un fantasme complet. Et peut-être que les constitutionnalistes n'insistent peut-être pas suffisamment sur cette affaire, suffisamment sur les dimensions institutionnelles de la politique. Est-ce que, troisième possibilité, ça veut dire que c'est la fin de la 5e République? Mais on l'a déjà dit tout à l'heure, je me serais rappelé, laquelle? Non plus le dernier mot, mais ça date peut-être de 1986. On aurait pu même le faire dater avant, de la perte des élections par le président Giscard d'Estaing, s'il avait perdu en 1978, alors qu'il aurait voulu rester. À partir de quand ça commence finalement à ne plus fonctionner? Ça serait au moins 38 ans. Ou enfin, dernière possibilité plus grave, est-ce que la crise, ce serait le fossé qui se creuse entre les citoyens et les institutions? Donc il faut d'abord identifier exactement quel est le problème. Et je ne pense pas qu'il y ait une solution unique à tous ces problèmes, et en tout cas pas institutionnelle. D'autant que tous ces problèmes, à mon avis, ne sont pas spécifiquement des crises, ou même pas des problèmes. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de majorité, mais c'est pas vrai. On trouvera toujours une majorité pour voter ou ne pas voter. Il y aura des mises en minorité. Et si le gouvernement est renversé et que c'est l'application de l'article 49, il n'y aura pas une crise. Moi, je veux dire que la Constitution fonctionne. Il y a une crise quand on mettra le feu à l'Assemblée nationale. Là, oui, là, on pourra dire qu'il y a une crise. Et tant qu'il n'y a pas ça, les institutions fonctionnent, même si elles ne donnent pas les résultats qui font censés correspondre à ce qu'on s'était dit. Donc j'en viens à me poser la question, qui rejoint un petit peu ce que disaient Michel, Arnaud et Jean-Marie d'une autre manière. Est-ce que finalement, ce n'est pas la situation antérieure qui était anormale? Est-ce que ce n'est pas justement ce présidentialisme majoritaire et l'idée de choix binaire qui s'impose et qui est totalement artificiel? Et pour revenir à Medada, le fait qu'on ait voulu artificiellement considérer qu'il y avait les majorités. La majorité absolue fabriquée par le mode de scrutin uninominal à deux tours, c'était la majorité du corps électoral, alors que ce n'était pas vrai. Ça n'est jamais vrai, mais c'était encore moins vrai, parce que nous avions une fièvre, mais nous avions pris soin de casser le thermomètre qui était précisément de ne pas introduire la représentation proportionnelle, qui aurait permis, justement, peut-être de s'habituer à prendre compte de ce que disent les électeurs. Parce que le grand paradoxe de cette affaire de mode de scrutin majoritaire, c'est de dire il faut que les électeurs aient le dernier mot, et donc ils choisissent et qu'on crée une majorité pour les écouter. Mais paradoxalement, le scrutin majoritaire a écrasé certaines volontés. il a écrasé certaines volontés et empêché des volontés qui étaient pourtant très nettes et qui s'exprimaient à travers les élections. En réalité, il faut quand même le dire, c'est celle du premier tour, bon sang, qui compte. Le deuxième tour, il est fabriqué, mais là où les gens s'expriment, c'est quand même le premier tour. L'affaire du barrage du Front Républicain, moi je ne partage pas tellement l'opinion qui a été émise, pas complètement tout à l'heure, parce qu'elle dit quelque chose, mais elle est aussi le résultat du hasard, du découpage électoral et des circonscriptions et des majorités qui arrivent à deux tours. Bon. Je pense que tant qu'on n'a pas trouvé un mode de scrutin qui permet de prendre acte de ce que disent les électeurs, à mon avis, et qu'on privilégie la stabilité à l'expression, c'est ça que je veux dire de manière maladroite, c'est que la stabilité, c'est bien, mais la stabilité